5, 4, 3, 2, unité, top.
Chaque semaine dans l'auberge espagnole, on reçoit...
Tout y passe et tous y passent.
On va démarrer avec une page scientifique et environnementale. On va parler d'énergie et de transition énergétique. Alain Gioda était présent hier au CIRAD qui, dans le cadre de ses projections Toile du Sud, projetait hier un extrait du film documentaire Les Maîtres de l'eau de Jean-Paul Llamazares, tourné à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau 2013 des Nations Unies. Un extrait qui débute ce commentaire et qui présente l'île d'El Hierro, une île située en Espagne, dans les Canaries, et qui avait dès avant 1980 été le théâtre de changements comportementaux de la population ayant participé au développement durable. C'est avec un tout petit peu de musique qu'on va enchaîner avant de retrouver Alain Gioda. Et cette musique, si vous voulez tout savoir, eh bien, vous le saurez plus tard. Gioda, bonjour Alain.
Bonjour.
Alors c'était hier, ce lundi 25, à 13h au CIRAD que tu es intervenu autour de la projection d'un extrait d'une vingtaine de minutes d'un film intitulé Les Maîtres de l'eau qui a été produit, si j'ai bien compris, dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau.
Exactement. Oui, c'est-à-dire le documentaire est déjà passé sur la chaîne Planète ou l'équivalent chez AB Productions. Hein. Donc maintenant, je pense qu'il va être vendu à des choses plus générales, type Arte ou France 5.
Alors Alain Gioda, tu es expert du débat national de transition énergétique, de l'unité mixte de recherche en hydrosciences du CNRS et de l'IRD, Université Montpellier 1 et 2, historien du climat, je crois que tu avais même travaillé pour le GIEC. Et là, la question qui se posait au travers de ce documentaire qui met en avant l'exemple de l'île des Canaries, El Hierro, est-ce qu'on peut transposer ce qui se passe là-bas en France? Alors la réponse a l'air, on va dire, d'être non, mais peut-être pour éclairer ceux qui nous écoutent, ce qui se passe à El Hierro, c'est qu'on arrive à récupérer de l'eau. Alors c'est une île dans l'Atlantique où il n'y a ni source, très peu de précipitations, etc. Donc on arrive à récupérer de l'eau principalement en dessalinisant l'eau de mer et puis aussi en allant la capter au fond de galeries qui donnent sur des puits volcaniques, ou alors avec ces fameux attrape-brouillards, ces filets que tu as contribué à installer là-bas. Évidemment, la situation particulière et la petitesse de cette île rendent assez complexe sa transposition en France, où le principal écueil serait politique. Mais ce qui ressort quand même de ce qui se passe à El Hierro, et qu'on pourrait, à mon avis, déjà transposer dans les têtes, c'est que finalement, on se rend compte que finalement, c'est une multiplicité de solutions, toutes adaptées à l'endroit où elles se développent, auxquelles il faut penser, et non pas à des idées uniques qui régleraient tous les problèmes. Ça, je pense que ce serait déjà une première chose qu'on devrait transposer en France dans la tête des gens.
Voilà. Écoutez, ça s'est bien passé, disons même à Montpellier. Je voudrais seulement dire que je travaille avec un programme qui s'appelle PAGES, qui n'est pas du GIEC, mais qui est parallèle au GIEC, même si je travaille avec des collègues du GIEC. Et ensuite, je voudrais vous dire qu'ici, déjà à Montpellier, c'est un peu la voie qui a été choisie, hein, parce qu'il marche bien. C'est par exemple le système d'adduction d'eau, qui est une œuvre du professeur Ariès. Et donc, El Hierro ressemble beaucoup au karst, hein, d'ici. Donc, l'eau s'infiltre très vite dans les volcans, comme elle s'infiltre très vite sur le calcaire. Elle est, entre guillemets, pas filtrée, c'est-à-dire que si on retrouve des cadavres d'animaux, on va retrouver très vite la marque de ces cadavres d'animaux dans l'eau. C'est exactement la même problématique et c'est un peu le même système que des galeries qui a été adopté par le captage des sources vauclusiennes. Ici, c'est la source du Lez, hein, qui donne l'eau depuis quelques décennies déjà à Montpellier. Donc, c'est tout à fait une solution locale qui est adapté au karst, qui est bien développé dans le sud de la France, qui donne de l'eau à Montpellier. Et donc El Hierro, c'est un petit peu ça, c'est que selon les endroits, selon les lieux, exactement, donc c'est toujours la même chose, selon toujours, c'est différent et il faut trouver une solution originale.
Alors, il y a aussi une volonté politique qui a fait remonter du local jusqu'à l'UNESCO ce qui se passe à Liéro. Là, c'est sur cette question du politique et de la volonté du politique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, semble-t-il, ici en France.
C'est-à-dire que le politique doit aider le local, et c'est un petit peu la leçon qu'on a essayé en tant qu'expert à montrer au gouvernement, c'est-à-dire de prendre ce qu'on appelle la démocratie participative et de remonter. Le problème en France, c'est qu'on a des très grosses entreprises qui sont issues, en gros, pour simplifier, de l'après-guerre. Et ces grosses entreprises ont du mal, puisqu'elles sont issues d'une politique nationale, de travailler avec le local. Donc, et la même chose, on a du mal en France avec le local parce qu'on a peu de PME et de grosses entreprises.
La transition énergétique en France, ça pose la question des 80 à 85% d'énergie nucléaire qui est utilisée en France, ce qui rend assez peu envisageable l'action qui est menée en Allemagne, par exemple, ou le scénario négawatt que vous avez évoqué dans le cadre de cette transition énergétique, sachant que finalement, il n'y a que 7 à 8, 13% aujourd'hui, on va dire, d'énergie d'origine renouvelable, dont 7 à 8% d'hydroélectrique. Donc ça laisse très très peu de place au reste. Autre exemple, en Languedoc-Roussillon, on s'est engagé, je crois, à déployer 1250 éoliennes en 2020. C'est un objectif affiché, mais dont on est encore très loin. Donc vous posiez la question de la pertinence, finalement, d'afficher des objectifs quand on sait qu'on ne va pas les tenir.
Oui, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire que les objectifs qu'on ne peut pas tenir, il faudrait éviter de les afficher. Ça, je pense que ça, tout le monde serait gagnant. Ça ne ferait pas de faire de désillusions aux gens. Et donc, ça, il faut absolument pas faire. Après, le gouvernement, je voudrais corriger un petit peu. Si vous voulez, c'est qu'en France, c'est 85% pas d'énergie d'origine nucléaire, c'est d'électricité. Hein. C'est 85% d'électricité. Donc, l'idée, c'est de faire tomber ceci à de l'ordre de 50%. C'est l'objectif affiché du gouvernement à l'échelon 2050. Parce que, si vous voulez, ça les centrales nucléaires, il faut ne serait-ce que 40 années pour les démanteler au moins. Donc ce sont des objectifs à très long terme et j'espère simplement que avec le Grenelle et donc la transition énergétique, petit à petit, il y a une sensibilisation et on avance sur le bon chemin ensemble.
C'est l'essentiel d'aller dans le bon sens, même si on ne va pas toujours aussi vite qu'on aimerait que ça aille. Notamment en termes d'objectifs affichés, il y a les 3-20, ces fameux 20% d'énergie renouvelable, 20% d'économie d'énergie, 20% de CO2 en moins, auxquels se sont engagées 5000 autorités territoriales dans 47 pays, donc au-delà de la communauté européenne elle-même. Là aussi, c'est des chiffres qui vont être très très durs à tenir pour la plupart des pays qui les ont signés.
Oui, je pense que même moi, la ville de Montpellier a dû signer, je pense. Hein. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais je suis presque sûr qu'elle a signé. Et certains sont le plus, entre guillemets, les gens pensent que le plus facile, ça va faire 20% d'économie. Donc le gouvernement pense qu'il va faire valoir simplement mieux isoler les maisons et donc moins consommer, pour simplifier. Hein, changer les modes de vie, favoriser le télétravail et peut-être la crise aidant aussi, il y aura moins de demandes énergétiques. Donc ce côté 20% d'économie, peut-être on l'obtiendra. 20% de réduction du CO2, ça veut dire changer les modes. Un gros émetteur de CO2, c'est les transports, 30%. Donc ça veut dire favoriser le télétravail, arrêter la dispersion de l'habitat, regrouper donc les gens en ville. Ça n'est pas gagné. Ça va être difficile. Et l'autre objectif aussi... 20% donc de CO2 en moins, 20% d'énergie renouvelable. 20% d'énergie renouvelable, on en voit les difficultés qu'on a. On est actuellement à 14% en France et il faut arriver assez vite à 23%.
Alors on parle d'énergie parce que dans ce documentaire qui s'intitule « Les maîtres de l'eau », on souligne le fait que pour désaliniser l'eau, puisque sur l'île d'El Hierro c'est la principale source d'eau douce, il faut beaucoup d'énergie électrique. La mise en place de 5 éoliennes sur cette île semble avoir résolu une partie du problème, avec aussi la mise en place de bassins qui permettent de suppléer au manque de vent par de faire couler ces bassins en altitude sur des bassins qui sont plus bas pour faire tourner des turbines. Encore une fois, ce qui a été souligné, c'est qu'on a trouvé des solutions qui étaient dans les schémas mentaux des gens. Les gens à Liéro faisaient des bassins, donc vous avez fait des bassins. Et ce qui était intéressant par là, c'est d'insister sur le fait justement qu'on doit trouver des solutions techniques qui n'aillent pas à l'encontre finalement de ce que enfin de ce que pensent les gens, en tout cas de ce qu'ils connaissent, de rassembler les gens plutôt que d'imposer des technologies dont on sait d'entrée de jeu qu'elles vont être mal accueillies par la population. Là, je pense à l'hydrofracturation, par exemple.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut, en France, par exemple, l'hydrofracturation, il y a eu un problème de communication important du gouvernement. En France, donc, le propriétaire du sous-sol, c'est l'État, et non pas le propriétaire de la parcelle. Mais l'État a oublié ou a très peu prévenu les maires des communes de ce qui allait se passer. Et donc, ça a entraîné une levée de boucliers rapide, sachant qu'il y a la possibilité d'affecter la qualité de l'eau, au moins, assez facilement avec ces procédures de fracturation qu'on appelle de façon simple fracking. Bon, donc voilà, ça, c'est, il faut éviter ça. C'est, il faut éviter la même chose qui s'est passé avec l'écotaxe, qui en fait n'est pas du tout une écotaxe, c'est une taxe pour taxer simplement les poids lourds. C'est une taxe poids lourds. Hein. Donc si ça était appelé taxe poids lourds, et sous-entendu c'était pour aider le ferroutage, ça serait beaucoup mieux passé. Hein. Donc il est très important l'approche d'être un petit peu diplomate, et de pas faire, de pas mettre les gens devant, comment dire, le fait accompli. Ça, c'est très très déplaisant. Et là, il y a eu donc tous les partis politiques ont voté au Parlement pour la taxe poids lourd, mais il fallait absolument pas l'appeler taxe écotaxe, parce que maintenant l'écologie en France, pour quelqu'un qui rapidement le fera ça, est assimilée à des impôts, ce qui n'est pas du tout l'objectif.
Et puis toujours trouver des technologies qui soient adaptées à l'environnement dans lequel on est. Alors la France compte un nombre de types de paysages assez impressionnant. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour les futurs ingénieurs, pour réfléchir, tiens, à tel endroit en Auvergne, on peut faire ça, chose qu'on ne peut pas faire à tel autre endroit.
Par exemple, à La Réunion, il y a un grand projet, bon, il ne se fera pas parce que c'est directement tout de suite sur le champ géothermique du parc national, mais si vous voulez, La Réunion, qui est certainement la partie de la France la plus avancée, on devrait être à peu près à la moitié de l'indépendance énergétique en 2020, c'est les champs, donc la géothermie. Hein. Donc ça peut être très intéressant. En région parisienne, la géothermie déjà donne de l'énergie à pas mal d'endroits. Ici, en Languedoc, très intéressant, ce serait d'exploiter les débris, les déchets de la vigne, ce qu'on appelle les déchets viniques. Hein. En d'autres régions, à la Réunion, ils exploitent déjà largement la bagasse, c'est-à-dire les déchets de la canne à sucre. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire que dans chaque région, il doit y avoir... Bon, la Réunion, c'est plus tropical, ils font beaucoup de photovoltaïque. Dans les Alpes, on va faire plus d'hydraulique, on va faire de la micro-hydraulique. Oui, c'est ça un petit peu.
Alors trouver des solutions qui soient adaptées à chaque lieu où on les trouve, mais en même temps arriver à travailler ensemble. Alors quand on voit que ce sont 5000 autorités territoriales de 47 pays qui sont engagées pour les 320, comment réconcilier cette situation un peu paradoxale qui consiste à partager l'intelligence, on va dire, mais en même temps à ce qu'elle s'étende sur un nombre si vaste et sur un nombre de structures tellement complexes qu'on se demande si c'est possible.
Oui, c'est-à-dire que là, ce sont les maires eux-mêmes, si vous voulez, une association qui s'appelle Energy City, qui est basée à Besançon, qui naît un peu sur les cendres de l'utopie de l'IP. Hein. Donc c'est une association qui est basée en France, mais c'est une association maintenant européenne, qui les fédère. Mais si vous voulez, ça part de la base, ça part des mairies, c'est personne qui a imposé ceci. Et après, les gouvernements ont repris ceci, et dans le plan énergie-climat, qui est de 2008 au niveau européen. Mais c'est une bonne initiative parce qu'elle part de la base.
Des bonnes initiatives qui partent aussi d'Allemagne, du Danemark ou d'Espagne. Vous avez dit, en France, en ce moment, on va chercher les idées là où elles marchent. Ça veut dire qu'il y a un petit peu une panne d'idées en France ?
Ah, sur ces thèmes-là, il y a une panne d'idées évidente. Dans tout le débat, le « là » a été donné par les ministres allemands de l'environnement, qui suppléaient quasiment la ministre française de l'environnement sur beaucoup de thèmes, parce que beaucoup plus avancé, le programme d'Angela Merkel est un programme qui va coûter, s'il se développe, autant pour avoir de l'énergie nouvelle et énergie propre, autant qu'a coûté à l'Allemagne la réunification avec la RDA. Donc on est de l'ordre de 400 milliards d'euros jusqu'à 2050. C'est-à-dire que ça va être un changement complet de l'Allemagne. Après, si vous voulez une Allemagne industrielle, ils veulent faire maintenant une Allemagne propre, entre guillemets.
Peut-être pour terminer, vous avez cité qu'il y a 2000 pages qui attendent les parlementaires pour plancher sur cette question de transition énergétique. 2000 pages que vous avez concoctées avec, je crois, une cinquantaine de vos collègues. Vous avez bon espoir qu'elles soient lues et avec assiduité et compréhension.
C'est-à-dire que les 2000 pages ne sont pas issues seulement de mes collègues. collègues, nous on a travaillé un petit peu, elles sont issues de toutes les du conseil. Nous ça s'appelait simplement le débat, et là il y a le conseil, au sein il y a les organisations patronales, syndicales, etc. Et donc c'est 2000 pages au total, et surtout les associations, par exemple type Carmonde, etc., Action contre la faim et tout ça. Donc si vous voulez, il y a un package qui normalement est soumis à l'approbation des députés. Alors, les députés pourront une loi programme qui engage la France jusqu'à l'horizon 2050, et normalement, cette loi programme devait sortir début 2014. Je pense qu'elle sortira au mieux début 2015. Et sera un des grands projets du gouvernement en place.
Alain Giaudin, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je citerai aussi l'apparition assez récente d'un livre sur les gaz de schiste, un double éclairage franco-américain avec Jean-Louis Fellous et Catherine Gauthier, qui elle est à San Francisco. C'est sorti chez Odile Jacob. On essaiera d'en causer sur les ondes de Divergence FM. Merci bien.
Merci à tous.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, c'est tous les mardis de 12h à 13h.
Quelque chose de pas trop dégueu.